Passion Logement, une émission proposée et présentée par la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, avec son président Jean-Marc Torollion.
radio-immo.fr.
Une émission présentée par bienici.com.
bienici.com, site d'annonce immobilière nouvelle génération.
Rebonjour à toutes et à tous, réunis toujours pour votre tribune Passion Logement au cœur de la politique du logement, c'est-à-dire pour une vraie politique du logement, animée avec nos partenaires de la Fédération Nationale de l'Immobilier, représentée par Jean-Marc Torollion, son président, qui est avec nous. Salut Jean-Marc.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Très bien.
Merci d'être avec nous, toujours. Voilà, on a parlé beaucoup récemment, vous savez, du dossier SAFER, on a parlé de la loi climat et résilience, on y reviendra d'ailleurs, hein. Ça va être l'objet. Moi, j'aimerais vous parler d'un sujet sur lequel vous êtes beaucoup battu. Et je vais vous demander si vous avez été entendu. Je voudrais qu'on parle des adhérents FNIM, vous savez, les saisonniers, les agences saisonnières, qui, a priori, vous me dites si je me trompe, n'ont toujours pas été reconnus comme des hôteliers et donc ne bénéficient pas des aides de l'État. Et en plus, ils ont été beaucoup plus impactés, ou sinon autant impactés qu'un hôtel ou que la restauration en général. Comment expliquer ça ?
Bah, je l'explique par la profonde ambiguïté aujourd'hui dans le cadre un petit peu de l'organisation du logement en France sur le positionnement du parc touristique français. En fait, de qui dépend-il ? Est-ce qu'il dépend du ministère du Logement ou est-ce qu'il dépend du ministère du Tourisme ?
Bonne question.
Tout ce parc productif, au fond, qui alimente une industrie touristique qui est la première mondiale, qui était la première mondiale.
Ça représente combien de logements ?
Ça représente 3,5 millions de logements en résidence secondaire, millions. Mais en fait, il y a 1 million. Ça représente en montagne 35 millions de nuitées.
C'est considérable.
35 millions de nuitées. Donc, la location saisonnière, nos professionnels détiennent 30% de ce marché. Le reste se fait au travers de résidences-services, au travers de plateformes, le reste se fait de gré à gré. Et très souvent, cette activité de location saisonnière, elle est le support d'une activité syndic et transaction locale dans nos communes touristiques, c'est-à-dire que ce soit dans les communes du Languedoc, du Pyrénées ou des Alpes ou de la façade atlantique ou de la façade méditerranéenne. Et au fond, il y a une mission qui vient d'être nommée au sein du ministère du Tourisme pour un plan montagne, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a 12 millions de copropriétés en montagne qui sont destinées à la location saisonnière. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et derrière, il y a des hommes et des femmes qui ont participé au fait qui exploitent, au fond, cette activité dans le cadre d'une industrie touristique qui est indispensable. Eh bien, on ne sait pas où le classer. Donc moi, je milite pour d'abord qu'il y ait une vraie reconnaissance d'un parc privé productif de l'industrie touristique, qu'il y ait la reconnaissance de ces acteurs associés qui sont certes titulaires d'une carte professionnelle et donc dépendants de la loi Houguet, mais qui ont une orientation économique très particulière. Et je constate, à l'aune de cette crise, qu'on a eu du mal à les positionner. Quand j'appelle un confrère en Martinique, qui me dit, voilà, moi j'ai 300 lots en gestion locative saisonnière, je ne fais que ça, chiffre d'affaires, moins 90%.
Waouh.
Parce qu'effectivement, 2021, j'ai pas eu Noël, j'ai pas eu jour de l'an, j'ai pas eu les vacances de février, j'aurais pas Pâques.
Ça menace la survie.
Eh ben, il a mis tout le monde en chômage partiel, il vivote, et il est terriblement angoissé. Et en plus, il doit rassurer des propriétaires qui ont fait le choix.
Est-ce qu'il est aidé ?
Eh ben, il n'a pas été aidé. Dans le cadre de l'industrie touristique, il a été aidé dans le cadre d'une entreprise ayant, elle, subi plus de 50% de perte de chiffre d'affaires.
PGE,
chômage partiel. Il a eu une aide exceptionnelle de 10 000 euros et puis il vivote. Dans l'industrie touristique de la montagne, même si on me reproche de parler que de montagne et pas de la mer, mais j'étais là pour l'instant sur les vacances d'hiver et la fermeture des remontées mécaniques. Et puis si on gagne le combat de la montagne, on gagnera celui de la mer. Les confrères qui ont certes une activité de transaction, mais qui dépend elle aussi de la fréquentation de la montagne qui est en chute, puisqu'il n'y a pas eu, de logement, il n'y a pas eu d'ouverture de stations de ski, et qui ont une activité syndic qui est indispensable pour le maintien de ce parc, quand ils ont une baisse de 30 à 70% de leur activité de location saisonnière, c'est un impact considérable. On me dit oui, mais ce n'est pas suffisant pour les aider parce qu'ils n'ont pas eu 50% de baisse au total de chiffre d'affaires. Mais cette singularité du métier devrait être reconnue pour bénéficier d'une aide. Je ne désespère pas. quand je vois se profiler le plan de sortie de confinement, j'ai l'impression qu'on révise aussi un petit peu ce modèle de la perte de chiffre d'affaires globale et pour avoir une dégressivité et une aide en fonction de cette dégressivité. Mais j'ai eu du mal à me faire entendre. Donc ce combat-là, si au moins il a servi à quelque chose, c'est de faire prendre conscience, me semble-t-il, que ce parc immobilier devait être, et ses acteurs spécifiques devaient être pris en considération.
On va aller sur ce sujet, justement. Comme vous le savez, Emmanuel Macron, avec le gouvernement, ont annoncé donc la fin du confinement. Les entreprises réouvrent, bien évidemment. Ça se passe comment, la fin du confinement? Parce que je vous donne quand même quelques axes. J'en parle souvent, notamment avec nos confrères de BFM Business, dans les billets d'humeur du Club IMO le mercredi. On a un stock de mandats qui a été l'un des plus bas historiquement. Alors, même si, effectivement, ça remonte dans certaines régions, bien évidemment, grâce à l'activité commerciale, etc. Sauf que, combiné avec une offre de logement neuf qui est vraiment, vraiment très dégradée, on a une pression, effectivement, sur l'ancien, mais vous l'avez toujours dit, qui se reporte, avec parfois des augmentations de prix, c'est à n'y rien comprendre. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la reprise de l'activité? Comment, effectivement, ces éléments-là qui se conjuguent, c'est-à-dire une baisse du logement, de l'offre de logement neuf, une demande qui est quand même très soutenue, des porteurs de projets toujours présents, une politique de taux toujours aussi attractive, et très peu de biens à vendre. Est-ce qu'il n'y a pas un choc économique à venir? Est-ce que tout ça ne va pas avoir un effet rebond qui peut être très dommageable à l'industrie immobilière?
Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a perdu... entre janvier 2020 et janvier 2021, sur l'ensemble des sites internet, quand on enlève un peu les doublons, on a perdu 372 000 offres. C'est-à-dire que par rapport à un stock, un cumul d'offres d'à peu près 2 500 000 biens, on en a perdu 372 000. Comment on interprète ça? On peut avoir une interprétation comme quoi, effectivement, on a moins d'offres. Mais pourquoi on a moins d'offres? Est-ce qu'elles tournent plus vite? Ça peut être la première explication. Est-ce qu'elle est entièrement publiée ou parce que, en fait, moi, je m'aperçois, nos négociateurs chez nous, à peine rentrés, ils ont déjà le client, donc elle n'a pas le temps même d'être publiée qu'elle est vendue. Donc, clairement, elle n'apparaît pas, elle n'émerge pas. Et parce que, globalement, l'activité transaction reste pour l'instant assez bien orientée chez nos confrères. Et troisième lieu, l'incertitude économique, parce qu'on va quand même débrancher là, on va bientôt débrancher les...
Les tuyaux,
on va débrancher les tuyaux. Est-ce que l'incertitude économique qui commence à être prégnante chez nos concitoyens n'incline pas à ne pas vendre,
c'est-à-dire à reporter
les projets de vente? Parce que on a d'une part le volet primo-accession et d'autre part le volet secondo-accession. Ce qui était caractéristique du 1 046 000 ou du 1 067 000 transactions que nous avons connues dans les années précédentes, c'est que les secondo-accédants étaient très présents. Et ces secondo-accédants, à mon avis, vont être beaucoup plus prudents au regard d'un enjeu professionnel.
Et la faiblesse de l'offre de neuf, est-ce que ça a une incidence?
Forcément.
Oui, bien sûr.
Forcément, parce que la partie de la demande qui est absorbée par le neuf, elle va s'exprimer forcément sur l'ancien, ou en tout cas, elle est stockée. Cette demande qui ne trouve pas satisfaction, elle est stockée. On le retrouvera soit chez elle, donc elle ne vend pas, parce que les gens qui achètent du neuf revendaient souvent un bien, donc ça alimentait. Soit elle reste en location, donc pénurie de location, soit effectivement elle s'oriente vers l'ancien et ça contribue à une pression sur l'ancien. Donc voilà. Alors, dans le neuf, il y a eu quand même quelque chose de paradoxal. C'est qu'en même temps, il y a eu beaucoup d'annulations de réservations. C'est-à-dire que, souvenons-nous bien, que les promoteurs disaient on a eu beaucoup d'annulations de réservations en sortie de confinement, liées justement au fait de se projeter à 2 ans, c'était pas évident.
Clairement.
Hein? Donc, espérons que cette phase-là est bientôt finie. Et on s'aperçoit que les promoteurs ont fait beaucoup de ventes en bloc aussi.
Enfin, soyons clairs, Jean-Marc Torollion, pour bien préciser, oui, il y a eu beaucoup d'annulations, mais c'est sans commune mesure avec la rétractation ou les permis qui sortent plus, d'un foncier qui ne se libère plus, et donc d'un stock finalement à venir pour le neuf, comme donc vous savez que la temporalité est beaucoup plus longue, bien évidemment, puisque à partir du moment où on trouve le foncier, il faut purger les recours, il faut mettre en place un permis de construire, etc. etc. Voilà, comment on fait pour réindexer une politique de logement? Parce que du coup, si on a un logement neuf en Berne, inévitablement, Jean-Marc Torollion, on a des prix qui vont monter dans les grandes métropoles, on a une compression par rapport à l'effet de la demande, non?
Eh bien, c'est pas ce qu'on ressent. Ça veut dire que la demande, elle est peut-être bien présente, mais elle s'exprime sur une offre qui est moins présente. Et donc, c'est un petit peu la théorie qu'on a donnée il y a 7 ou 8 mois. Moi, ce que je veux observer, c'est les volumes de vente. Est-ce que finalement, ces volumes restent aussi conséquents ou pas ? On va avoir un moment de vérité. On est en train de faire une étude. On aura une conférence de presse importante fin juin là-dessus. Est-ce que la demande est aussi importante ou est-ce qu'au fond, on n'a pas un marché qui s'est ajusté, même si la demande reste supérieure à l'offre, qui s'est ajusté par rapport à cette offre parce que la demande est beaucoup plus prudente malgré tout et que ce n'est qu'un segment de certaines catégories de Français qui s'expriment aujourd'hui à l'acquisition.
Dossier à suivre. Vous consultez vos adhérents actuellement, beaucoup. Parce qu'il y a un contexte politique, on ne peut pas, bien évidemment, s'y soustraire. Vous souhaitez, vous l'avez toujours souhaité depuis que vous avez pris vos fonctions, inscrire un vrai débat public sur la politique du logement. Je voudrais vous donner deux dates. Vous avez votre prochain congrès, qui va être un congrès important pour vous, notamment. Je crois que c'est votre dernier ou votre avant-dernier congrès ?
Ce sera mon avant-dernier.
C'est l'avant-dernier congrès. Oui, déjà, presque 5 ans se sont passés, bien évidemment, sous votre présidence. Je rappelle deux choses. C'est que, je rappelle à nos auditeurs que le congrès FNIM, c'est toujours au Carrousel du Louvre, que ça a lieu le 23 et le 24 novembre 2021. Et vous faites une journée supplémentaire, le jumeau numérique, on peut le dire comme ça, le 25 novembre. Et ensuite, on a, l'année prochaine, les élections présidentielles. Intéressant, ces deux dates. Parlez-nous du congrès. Qu'est-ce que vous avez pensé pour ce congrès et comment, vous, Jean-Marc Dorelion, dans ces 18 mois qui vous restent dans votre mandature, vous allez essayer d'être le président du débat public pour la politique du logement que vous avez toujours souhaité ?
Alors, nous allons d'abord lancer une grande consultation auprès de nos adhérents sur des thématiques qui ont trait à la politique du logement et des thématiques qui ont trait également aux acteurs du service de logement que nous sommes. Je vais demander que les conclusions nous soient rendues dans le courant de l'été. Pour que nous puissions bâtir une plateforme de proposition. Je précise d'ailleurs que cette plateforme de proposition, elle sera bâtie avec l'UNIS et Pluriance. Nous souhaitons être unis sur ces propositions-là, au sein d'ailleurs d'une association qu'on a convenu d'appeler Convergence. Et donc, nous allons...
Donc, une association qui va porter d'une seule voix l'industrie immobilière.
Ouais. Voilà.
C'est du jamais vu.
Il y a eu des précédents, mais je pense que c'était, en tout cas, c'était pas le cas à la précédente
Absolument,
élection.
Sous cette forme-là.
Et donc, l'idée, évidemment, c'est d'essayer de porter des thématiques fortes. Il ne s'agit pas d'en porter beaucoup, mais il s'agit d'en porter un certain nombre extrêmement structurantes. Comme toujours, on fait parler nos territoires. Comme toujours, on fait parler nos adhérents de terrain. Et comme toujours, on fait parler le pluralisme au sein de la fédération par rapport à tous ces enjeux. Et on en fera une synthèse, naturellement, et il conviendra de les restituer. Et ce congrès, qui sera à la fois physique et digital, il va être construit au Carrousel du Louvre pour pouvoir accueillir le débat politique. Et c'est ce que nous allons proposer, au fond. Et il n'y aura pas d'exclusif de ce point de vue-là, mais l'idée est bien que ce congrès soit modestement malgré tout, mais un carrefour.
Est-ce que ça veut dire qu'au congrès, ceux qui se seront déclarés à la présidence ou à la candidature seront présents ? Ou vous souhaitez leur présence ?
En tout cas, ils seront les bienvenus.
D'accord, vous en faites un instrument de débat public. Dossier à suivre. J'ai un dossier sur lequel, et j'aimerais qu'on conclue cette tribune sur le sujet. Il y a un projet en Europe, un projet de loi, sur lequel vous êtes très attentif, notamment sur les plateformes, sur un certain nombre de sujets. Est-ce que vous pouvez nous éclairer les adhérents et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que ce projet-là, sur les DMA, les DSA, justement ?
Vous voyez, Sylvain, ça, c'est toute la difficulté du syndicalisme. C'est-à-dire que nous avons une vision européenne, grâce notamment à notre activité d'influence et au fait que j'ai tenu, en tant que président de la FNEM, à qu'on se mette au niveau des enjeux métiers du futur. C'est des choses que les adhérents ne perçoivent pas toujours. Et c'est normal, ils ont le souci du court terme. Mais là, par notre action de vigilance, nous travaillons à 5 ou 10 ans sur la pérennité de nos entreprises. Et cet enjeu-là, c'est quoi ? C'est de savoir si demain, Amazon, Google peuvent faire nos métiers, et s'ils peuvent le faire, comment ils le feront ?
C'est déjà le cas. Hein.
Et s'ils doivent le faire, dans quelles conditions ils peuvent le faire ?
C'est pas le cas en France.
Non, c'est pas le cas.
Non, mais Google fait de l'aménagement du territoire
c'est pas le cas.
En Amérique
Facebook
du Nord.
Facebook a essayé, c'est pas le cas.
Voilà.
Et donc, voilà, derrière ceux qui se posent encore la question de savoir si je dois avoir un ou deux agents commerciaux, moi je leur dis, à la Fédération, on est en train d'anticiper bien autre chose.
Est-ce qu'elles vous font, voilà. Est-ce qu'elles vous font flipper ces plateformes ?
Bien sûr.
Ça vous fait peur ?
Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et la notion de plateforme, il faut bien la comprendre. Et il faut bien en avoir la définition. Et donc, grâce à notre vigilance et grâce au fait qu'on s'intéresse à ce dossier, nous savons que le cadre réglementaire de la loi Auguet sera opposable à toute plateforme qui veut faire nos métiers en France. C'est le contraire de la jurisprudence Airbnb, pour lequel d'ailleurs le gouvernement n'avait pas signifié notre réglementation. Et donc, ça, c'est des éléments extrêmement importants. Et moi, on m'a communiqué le positionnement de l'Espagne, de l'Italie, de la Slovénie, pour prendre trois exemples que j'ai en tête, qui sont en parfaite adéquation avec les intérêts de mes adhérents. Nous sommes le seul syndicat à avoir cette vision-là, à mettre les moyens pour comprendre ce qui est en train de se passer et pouvoir faire rendre notre point de vue.
Souhaitons que le président qui suivra ce dossier dans les deux ans qui viennent reprendra bien à cœur cette problématique.
Mais j'en doute pas.
Encore une fois, un dossier à suivre. Merci Jean-Marc Torollion.
Merci.
On se retrouve toujours avec autant de passion pour le logement pour notre prochaine tribune. D'ici là, bien évidemment, le podcast, comme d'hab, il est disponible sur l'application de Radio Immo, sur le site, sur les applications aussi agrégateurs Deezer, Spotify et bien d'autres. Likez, commentez, toujours avec bienveillance. Et d'ici là, restez connectés. Au mois prochain.
Passion Logement, une émission proposée et présentée par la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier, avec son président Jean-Marc Torollion.
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par bienici.com.
Bienici.com, site d'annonces immobilières nouvelle génération.